I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Annick de l'équipe Audible. Chiffon, c'est mon petit moment d'évasion. Je mets mes écouteurs et c'est parti pour un instant mode sans froufrou. Et parce que chez Audible, on adore chiffon, on offre aux 100 premières auditrices et auditeurs le livre audio « Celle qui a dit fuck » avec toute offre d'essai. Pour en profiter, rendez-vous sur la page audible.fr/chiffon et entrez le code chiffon. Bonne écoute!
J'ai une vraie admiration pour Saint-Laurent. Si je devais choisir un créateur, ce serait lui. Il avait un don particulier. Cette façon de reprendre des éléments de différentes cultures, de les retravailler avec quelque chose de très chic.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est pas vrai tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sapes, chiffon,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme de 37 ans qui a un œil plus qu'aiguisé sur la mode. Elle est attachée aux couleurs, aux imprimés, au style masculin-féminin, à la mode vintage ainsi qu'à la déco. Colombe Campana est une vraie passionnée de fringues, de nippes, de fripes, de sapes. Après avoir fait ses armes chez Capucine Puerari, Sonia Riquiel et Hanover Stories, Colombe est aujourd'hui la directrice artistique de Tara Germont. Cette grande blonde, à l'allure toujours parfaite, se refuse d'être une élitiste du luxe et a pour seul objectif de voir les vêtements qu'elle crée sur les femmes dans la rue. Bonjour Colombe.
Bonjour Valérie.
Alors, est-ce que cette petite présentation te convient ?
Bah, évidemment.
Alors, comme je le disais, tu es DA, directrice artistique de Tara Germont depuis mars 2017.
Ouais.
Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est une directrice artistique ? Quelle est ta mission et pourquoi Tara Germont ?
Alors, une directrice artistique au sein d'une marque de prêt-à-porter de mode, c'est quelqu'un qui, à la fois, donne les directions pour la collection, qui dirige le studio, parce que une marque de prêt-à-porter, en général, c'est plusieurs stylistes. C'est des équipes voilà, assez importantes. Donc, la directrice artistique, son rôle, c'est d'être un peu le chef d'orchestre, de donner le là pour les collections, les inspirations, de aussi dessiner une partie de la collection. Et le rôle d'un DA, c'est aussi de travailler sur toute la marque dans sa globalité, c'est-à-dire les campagnes de pub, l'image de la marque, les mannequins, la façon dont on véhicule la marque à travers les différents départements, les boutiques aussi, ça peut être travailler sur la décoration des boutiques. C'est tout ce qui fait
la
marque. Voilà, c'est très global.
Et pourquoi Tara Germont ?
Alors, Tara Germont, c'est un hasard, en fait. J'étais partie de chez Endozer Stories avec l'idée de plutôt monter ma marque. Et j'ai été appelée par un chasseur de tête qui m'a donc appelée pour Tara Germont en me disant que la marque était rachetée par un fonds d'investissement, que Tara Germont était partie avec son mari David et qui cherchait un directeur artistique pour relancer un peu la marque, qui était une très belle marque, qui avait une très belle histoire, un très beau passé.
Elle existe depuis quand ?
Elle existe depuis les années 80.
80, c'est ça.
Ouais. Hein. Donc voilà, il y avait un très bel historique de marque, mais le besoin aussi de renouveler un peu les collections et de leur apporter quelque chose de plus actuel. Et moi, en fait, j'ai été très séduite par le challenge parce que c'est une marque qui, évidemment, que je connaissais, qui avait un peu bercé mon enfance et mon adolescence et qui a une empreinte très parisienne, un peu à l'image de toutes les marques pour lesquelles j'ai travaillé. Donc le challenge de relancer une marque qui a une belle histoire, qui a vraiment un fond très intéressant et de le réactualiser, c'était évidemment hyper excitant.
Alors, dans le livre Inside Fashion, un livre qui a été écrit par Angèle Rincheval-Hénu, c'est ça, et Karel Balas,
ouais.
Tu déclares que la mode est ton quotidien. Est-ce que tu suis les tendances ?
Alors, non. Évidemment, je les suis, je les regarde, parce que je regarde tout, et je trouve que c'est important de se tenir au courant de tout ce qu'on, de tout ce qui se passe. Mais les tendances, pour moi, je les garde un peu à distance. Je trouve que c'est évidemment intéressant de voir, parce que c'est toujours le symbole de quelque chose qui se passe. Ça s'explique souvent.
C'est un côté social aussi.
C'est un côté très social, évidemment. Et donc même, c'est même intéressant de pouvoir l'analyser. Mais moi, je préfère le style. Je préfère les marques qui ont un style propre à elles, qui évidemment ne se répètent pas forcément de saison en saison, mais qui ont vraiment quelque chose de un ADN et quelque chose de fort.
Pourquoi cet amour pour les années 70 ? J'ai fait plusieurs revues de presse sur toi, et c'est vrai que ça ressort souvent, et notamment les collections d'Yves Saint-Laurent.
Alors, les années 70, j'adore. Après, c'est vrai que c'est plutôt Saint-Laurent. Moi, j'ai une vraie admiration pour Saint-Laurent. Voilà, si je devais choisir un créateur, un styliste, ce serait lui, parce que il avait un don particulier pour les couleurs, qui sont quelque chose que moi j'adore et que j'adore travailler. Il avait aussi cette façon de reprendre des éléments de différentes cultures, de les retravailler avec quelque chose de très sophistiqué, très chic. Donc je dirais que c'est plus Saint-Laurent que les années 70.
Alors, tu n'étais pas du tout prédestinée à bosser dans la mode avec des parents avocats. Comment es-tu tombée dans la fringue ?
Alors, j'étais pas prédestinée, à la fois je l'étais un peu. Effectivement, mes deux parents étaient avocats, j'ai deux sœurs, ils nous ont laissé l'un et l'autre très libres de faire ce qu'on voulait, et au contraire, nous ont toujours encouragés à ne pas devenir avocats.
Pourquoi ?
Bah parce que ils avaient pas, enfin c'était eux, ils nous avaient toujours encouragés à faire ce qu'on voulait faire, en fait, à avoir une passion. Et il se trouve que par ailleurs, ma mère, qui est donc était avocate, a toujours adoré la mode, mais de façon vraiment plus personnelle. Donc elle a une garde-robe qui est impressionnante et un sens de la conservation et de la transmission des vêtements. Très fort, donc je pense qu'évidemment je tiens ça d'elle, parce que très petite, elle allait chez Hemisphere, qui était un...
C'est une multimarque, non ?
C'était un multimarque qui était génial, et c'était des gens qui rapportaient du monde entier, le Shetland d'Écosse, la jupe d'Amérique du Sud, donc voilà, elle avait ce goût pour le vêtement qui était très fort, et je pense qu'elle me l'a transmis. Et après, moi, j'ai adoré, petite, très vite, dessiner. Donc, je suis plus passée par... Enfin, ça s'est plus imposé de cette façon-là. C'est-à-dire que j'ai découvert que ce métier me permettrait de dessiner.
Mm-hmm. Comment tu étais, petite fille, plutôt robe à smoke ou garçon manqué ?
Alors, j'étais robe à smoke parce que ma mère me mettait en robe à smoke, mais malheureusement, toujours assez débraillée. Et donc, plutôt garçon manqué, je dirais.
Alors, j'ai vu, est-ce que c'est vrai ? Dans une interview, tu dis que tu n'aimes pas être coiffée et que quand t'es trop coiffée, tu te décoiffes.
Oui. En fait, j'ai du mal à avoir un côté très parfait. En fait, je trouve que je fais très... Moi, ma perception de moi, c'est que si je suis trop apprêtée, trop brochinguée, trop... voilà, j'ai un côté, un peu godiche, que j'aime pas.
Godiche ?
Ouais.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau look ? Est-ce que ça vient de ta maman ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ou
Le meilleur conseil qu'on m'ait donné niveau look, je ne sais pas qui a dû me dire ça, mais je pense que je l'ai entendu de plusieurs personnes et je pense que c'est très vrai, c'est d'être soi-même, enfin voilà, c'est de se connaître un minimum et à partir de là, de faire avec ce qu'on aime, de faire avec qui on est.
Quel est ton style aujourd'hui ?
Mon style, il est assez classique, je dirais. J'ai une garde-robe qui n'évolue pas énormément dans le temps. J'ai des choses que je mets, enfin, je fonctionne vachement comme un uniforme, c'est-à-dire que pendant des mois entiers, je vais m'habiller à peu près de la même façon. Je vais trouver un pull ou deux pulls que j'adore et donc je vais les mélanger. J'ai cette espèce de côté très confortable à avoir des vêtements qui m'accompagnent pendant plusieurs mois, de la même façon que je peux manger la même chose pendant des mois entiers au restaurant. J'ai mon style, je dirais qu'il est, il est un peu parisien parce que on me le dit beaucoup et je pense que c'est assez vrai.
On va y revenir.
Ouais. Et plutôt composé de pantalons. J'ai une passion aussi pour les combis pantalons. Je pense que si j'avais pu inventer ce vêtement, je l'aurais fait. Et pas beaucoup de robes. Alors que j'adore les dessiner, j'adore les imaginer pour d'autres filles. C'est quelque chose dans lequel je me sens moins à l'aise.
Tu ne portes pas tout ce que tu dessines ?
Je ne porte pas tout parce que déjà...
Les collections sont importantes. Ouais, voilà.
Les collections sont très importantes. Et après, quand on travaille sur une collection, évidemment, on pense à soi, c'est important. Mais on pense aussi à toute une foule de morphologies différentes, de clientes différentes.
Oui, ce que tu disais dans une interview aussi, c'est que tu veux habiller les femmes de 18 à 70 ans, en fait.
Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, le débat sur l'âge, même s'il est très... Enfin, voilà, même si on a pu voir ces derniers jours qu'il était vachement d'actualité, il est... En tout cas, dans la mode, c'est plus un débat. Je pense qu'une femme de 60 ans, et je le vois avec ma mère ou avec ma belle-mère, elle peut s'habiller avec le même manteau que moi ou qu'une de mes copines. Et je pense que c'est plus un état d'esprit. Mmh. Enfin, voilà, y a plus cette espèce de côté très compartimenté.
À 40 ans, on ne met plus de mini-jupe, on porte plus de couleurs à 50.
Exactement. Mmh. Je pense que tout dépend de qui on est, tout dépend de son rapport à son corps aussi. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai jamais mis tellement de mini-jupes parce que je ne me sens pas moi avec ça, mais il y a des femmes qui, à 60 ans, sont encore super belles avec une mini-jupe. Mmh.
Quelle relation entretiens-tu avec ta penderie ?
Je la considère comme un petit musée.
Ah !
Parce que voilà, j'ai des vêtements que je mets énormément, mais j'en ai d'autres que je garde précieusement et qui me font plaisir. C'est-à-dire que quand j'ai un petit espace dans mon appartement qui est comme une toute petite pièce, et j'adore voir des jupes ou des robes qui sont des témoins de quelque chose que j'ai vécu ou d'un événement et que je ne vais pas forcément mettre, mais qui sont là et que je trouve rassurant.
Et que tu viens saluer tous les matins.
Ouais, voilà. Et que je garde pour ma fille, parce que j'aime aussi vraiment l'idée de la transmission, comme j'ai pu l'avoir avec ma mère qui m'a gardé toutes ces blouses Saint-Laurent des années 70 que je conserve religieusement aussi aujourd'hui.
Est-ce que cela t'arrive de te prendre la tête le matin pour t'habiller ?
Tous les matins.
Tous les matins.
Tous les
Donc matins. Tu vas décomplexer plus d'une femme.
Ah ouais, je suis un cauchemar vivant et je fais hurler mon mari parce que je me change à peu près 4 ou 5 fois.
Mais pourquoi ?
Parce que je teste alors que je reviens toujours finalement à une tenue que j'ai.
Tu disais que tu gardais les mêmes tenues pendant 6 mois,
oui,
en fait.
Mais en fait, je peux pas m'empêcher d'aller expérimenter, d'aller chercher quelque chose que j'ai pas mis depuis longtemps, de l'essayer, puis de me dire non, en fait, ça va pas. Et je me retrouve très facilement à me changer 2 ou 3 fois pour finalement finir avec la même tenue que la semaine dernière.
Alors, tu as 2 jeunes enfants.
Oui.
Et scoop pour Chiffon, tu as accepté que je le dise. Tu attends un bébé pour bientôt, donc un troisième enfant.
Ouais.
Comment tu t'organises le matin ?
Alors, le matin, je suis aussi je me lève très tôt parce que j'aime prendre mon temps. Je déteste faire les choses...
Ah bah si déjà tu changes 3 fois de tenue...
Voilà. Et là en fait voilà, je me connais un minimum, donc je sais qu'il faut que j'ai un peu de temps. Je me lève très tôt parce que j'aime prendre mon petit déjeuner avec mes enfants, sachant que je rentre quand même plutôt assez tard le soir et que j'ai peu de temps pour les voir et qu'ils sont petits. J'aime prendre une heure entière avec eux pour pouvoir discuter, voilà, les habiller... Et j'envoie tout ce petit monde à l'école avec mon mari. Et là, j'ai 20-25 minutes pour me préparer.
Tu as rendez-vous avec ta penderie.
Voilà.
C'est ton moment à toi dans la journée ?
Ouais.
Alors, on me reproche de ne pas suffisamment parler du style de femme enceinte. Alors ouais. Là, pour la première fois dans Chiffon, j'en ai une devant moi. Mmh. Quels sont tes plans fringues de maternité? Est-ce que tu achètes des vêtements spécialisés ou pas?
Alors, la seule chose que j'achète et que j'ai toujours acheté dans mes grossesses, c'était les jeans de grossesse parce que je porte énormément de jeans au quotidien, en fait. C'est vraiment... C'est presque la base de mon vestiaire, c'est-à-dire que je mets beaucoup de jolies chemises, de blouses en soie, de choses comme ça, mais j'ai toujours à 90% du temps un jean. Donc la base de mon vestiaire de maternité, ça a été de me trouver des
où
jeans.
Où est-ce que tu les achètes?
Je les ai achetés chez H&M. H&M, ils ont une bonne sélection. Il y a peu de marques qui proposent des vêtements de femmes enceintes. Donc, je les ai toujours achetés chez H&M. J'en ai acheté 2 ou 3. Voilà. Après, j'ai fait l'erreur pendant mes 2 premières grossesses de rien m'acheter d'autre que ces jeans. Et je trouve que... On vit des tels bouleversements pendant la grossesse. C'est pas forcément quelque chose que toutes les femmes trouvent super épanouissant, ces transformations du corps. Là, je me suis dit que je me faisais des petits cadeaux pendant la grossesse et pas vraiment et pas que des fringues de femme enceinte. Je me suis acheté un joli pull. Voilà, je vais m'offrir pendant ma grossesse 2-3 vêtements qui vont m'accompagner et qui seront pas des vêtements de femme enceinte.
Et qui t'accompagneront après?
Probablement.
Et tu le vis comment?
La grossesse?
Ouais.
Bah, moi, je trouve que c'est le voyage est long et pas forcément idéal, mais c'est la destination qui compte. Enfin, voilà, moi, je suis ravie d'avoir un troisième enfant. Après, la grossesse en elle-même, je trouve pas ça extraordinaire. J'ai du mal avec le côté contrainte, justement, de pas pouvoir porter...
Ce que j'allais dire, au niveau de ton look, c'est contraignant, quand même.
Ouais, c'est très contraignant. Et déjà, en fait, je suis très pointilleuse. Voilà, dès que... Là, j'ai la sensation que dès que je mets un truc, je ressemble à Obélix.
Non, mais
je pense que c'est la perception qu'on a de son corps. Enfin, je sais qu'il y a des femmes qui adorent la grossesse, le ventre qui grossit, qui trouvent que c'est extrêmement épanouissant. Moi, c'est pas forcément mon cas.
Alors, j'ai lu dans une interview que tu es capable de tout porter. Tu ne te mets aucune barrière vestimentaire, c'est vrai?
Alors, comme je disais, moi, j'ai un style plutôt assez classique. Après, j'ai beaucoup appris avec le temps. Et ça, c'était Capucine Purari qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, il faut jamais dire jamais. Parce que tu as des tendances que tu ne comprends pas et que tu peux détester à un moment. Et 10 ans après, te rendre compte que voilà, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire dans ta tête et que tu comprends et que tu vas trouver beau. Et ça peut être par exemple pour les... Moi, en termes de décennies, les années 80-90 dans lesquelles j'ai grandi, c'est des décennies que j'avais du mal à comprendre en termes de tendance, de mode.
Oui, j'ai même lu une interview dans laquelle tu disais que quand tu étais au studio Berceau, tu étais finalement pas tout à fait comme les autres au niveau look, tu étais plus classique que les autres.
Beaucoup plus classique. Bah, les autres... Déjà, j'étais une des plus jeunes parce que j'ai fait le studio Berceau en sortant de mon bac. Que je sortais d'une école, voilà, d'un lycée assez classique et bourgeois de Paris, que je suis arrivée dans une école où j'avais des gens qui avaient, pour certains, 8 ans de plus que moi, qui avaient des backgrounds très différents.
Qui avaient déjà un look affirmé, peut-être.
Voilà, qui avaient fait plein de choses avant, ou qui venaient de pays très différents. Donc oui, j'étais clairement un peu la petite bourge qui arrivait de son 16e et au milieu de gens qui étaient peut-être un peu plus nourris que moi. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant à vivre aussi. Ça m'a ouvert les yeux sur
plein
de trucs.
T'as évolué un petit peu?
Ouais. Enfin, après,
dans
j'étais
le sens,
pas...
effectivement, ouvrir l'esprit.
Voilà. Après, j'étais heureusement... pas uniquement nourrie par mon lycée jeune et que et j'ai eu des parents qui étaient hyper ouverts d'esprit et qui nous ont ouvert les yeux sur plein de choses. Donc
t'es arrivée avec 10 000 piercings
Non, j'ai testé la faute de goût. Enfin, je dirais que c'était pas une faute de goût, c'était vraiment une volonté de se fondre un peu dans la masse. J'allais aux puces et je m'achetais les vieux sweats des années 70 Adidas, 3 bandes. J'en avais un orange fluo avec des bandes bleu marine. Et j'avais l'impression d'être méga cool. J'avais des Santiago Miu Miu aussi que je m'étais acheté en solde. Et le mélange n'était pas terrible, en fait, quand je vois avec le recul de l'histoire. Mais j'avais l'impression d'être très cool.
C'est ça ton pire fashion faux pas ?
Oui et non, parce que sur le coup, c'était pas un faux pas. Et c'était pas... Voilà, c'était mignon, quoi. Moi, j'ai pas de souvenir de pire fashion faux pas, je dirais.
Quelle est, selon toi, la fringue nécessaire à toute bonne garde-robe ? Si t'avais un conseil à donner aux auditrices.
Ah, j'en ai deux. Je dirais un bon jean. Parce que voilà, ça se porte aujourd'hui en toutes circonstances et de façon très facile. Et une jolie chemise, une belle chemise blanche. Je trouve que voilà, tu te sens vraiment femme et tu peux te sentir chic avec une belle chemise blanche que tu mets avec un pantalon noir ou avec un jean.
Mais en l'accessoirisant.
En l'accessoirisant, avec des bijoux. Enfin voilà, c'est une base de garde-robe qui est simple mais très efficace.
Alors tu parles de jean, est-ce que tu as trouvé le jean de ta vie ?
Je le cherche toujours parce que je suis hyper exigeante.
À quel niveau ?
Au niveau des fesses que ça fait, de la silhouette des jambes et du mollet aussi. Je suis très...
Du mollet ?
Ouais.
Tu portes des jeans plutôt slim alors ?
Plutôt
si
slim.
Si on voit le mollet.
Ouais, ouais. J'ai trouvé un jean avant ma grossesse que j'adore chez Acne. Mm-hmm. Un taille haute, slim. Hyper classique, hyper facile, qu'on peut porter à plat ou avec des boots. Après, en fonction du temps et des années aussi, on évolue un peu les formes de jeans. On évolue un peu dans les formes de jeans qu'on porte.
Donc, avec le corps ?
Ouais.
Ou avec,
avec
la mode ?
Avec le corps, avec la mode. Je trouve que parfois, on met des jeans un peu plus taille haute. Parfois, c'est une jambe un peu plus droite. Donc, je pense que j'aurais jamais... fini de chercher le jean
cette
parfait.
Quête de ouais. toute une vie.
Ouais.
Est-ce que le regard des autres te touche ou t'affecte ?
Pas beaucoup, je dirais. Pas énormément. Ça compte. Voilà, si quelqu'un me fait un commentaire, voilà, ça peut me toucher, mais je suis suffisamment sûre de moi pour pas que ça me touche beaucoup.
Est-ce que cela t'arrive d'arrêter une femme dans la rue pour lui demander la marque d'un vêtement qu'elle porte ?
Ouais,
ça m'arrive. Oh, j'aime bien, ouais, désespérée.
Non, ça m'arrive et en général, ça fait plaisir aux gens et je trouve que...
Ah ben enfin, quelqu'un qui le dit !
Ouais.
C'est vrai que ça fait toujours plaisir
bah,
de
bah oui,
se faire
parce
arrêter.
Que... et puis quand on le fait gentiment, quand on dit j'adore votre jupe, votre pantalon, votre truc, voilà, c'est toujours c'est un petit bonbon dans la journée pour... Pour la personne qui reçoit ça, quoi. Je trouve que c'est sympa. Et moi, voilà, je suis très curieuse.
Oui, j'ai lu ça, que tu regardes beaucoup, ouais. tu lis beaucoup, tu ouais. chines beaucoup. Oui. Donc, ça fait partie aussi de ta quête de regarder les femmes dans la rue ?
Beaucoup, ouais. Parce que on peut s'inspirer d'une silhouette, on peut s'inspirer d'un détail, d'une couleur, d'une association de couleurs.
Dans ce cas-là, tu prends des notes ? Comment ça se passe ?
Non, je sais que si je vois quelque chose de très marquant, je le photographie. Mm-hmm. J'ai pas besoin de le noter ou je m'en souviens.
Mm-hmm. Est-ce que l'accessoire est important pour toi ?
Énormément. Énormément. Ce qui compte, et c'est ce que j'ai aussi essayé de mettre en place chez Tara... C'est l'idée de construire une collection comme une silhouette, enfin comme un voilà, de pas uniquement voir les choses comme des catégories de vêtements, par exemple de travailler les jupes, les robes, les tops, les chaussures de façon séparée, mais de penser très en amont à la silhouette qu'on va donner aux collections. Et moi, quand je construis les collections, je pense à tout l'ensemble de la collection et les accessoires sont hyper importants. Là, j'ai reçu mes accessoires de l'hiver prochain, j'ai reçu les chaussures et voilà.
J'ai vu qu'il y a des très beaux bracelets sur ton ouais. bureau aussi.
voilà,
je ne les montrerai pas, mais c'est l'hiver
prochain,
2020.
Ouais. Et hier, j'ai fait justement des silhouettes sur un mannequin parce qu'on a reçu toute la collection au showroom et je suis surexcitée de pouvoir voilà, mixer tout ensemble. Et l'accessoire a évidemment une importance énorme dans la silhouette.
Alors, j'ai lu une interview aussi. J'ai lu beaucoup d'interviews sur toi. Il y a beaucoup d'interviews sur toi hein, depuis mars 2017,
ouais,
date de ta nomination donc au poste de DA chez Tara Germont. Tu déclares, lorsque je m'achète un vêtement, j'ai un seuil psychologique du prix difficile à franchir.
Oui.
Pourquoi ? Tu trouves que la mode est chère ?
Je trouve que la mode est parfois un peu chère, ouais. Je trouve que le seuil psychologique, pour moi, c'est juste... Quand je fais juste un petit état des lieux de ce qui peut nous entourer, des problèmes un peu voilà, autour de soi qui ne nous touchent pas forcément, mais qu'on voit voilà, tous les gens qui ont du mal à boucler leur fin de mois, les choses comme ça, j'ai du mal à me dire que c'est... Enfin, que voilà, que je peux dépenser, je sais pas, 1 500 € pour
un sac,
par exemple, ou...
C'est plus que le SMIC, en fait.
Ouais, j'ai du mal, en fait, je trouve que...
Tu trouves ça indécent ?
Presque indécent, ouais. Et parce que ça aussi, c'est mes parents qui m'ont vachement appris la valeur des choses. Et puis après, je sais aussi, par ailleurs, que je peux trouver de super jolies choses à des prix raisonnables. Après, je suis très pour le juste prix... c'est-à-dire que il faut évidemment qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait une belle fabrication,
une transparence,
une transparence, voilà, dans la fabrication. Et pour tout ça, il y a un prix juste. Après, on le sait tous, chacun, voilà, quand il y a quelque chose qui est excessivement cher, on sait qu'on paye parfois. Le marketing, la communication, et que ça sort un peu du cadre du vêtement ou de l'accessoire en lui-même.
À quelle fréquence achètes-tu des fringues ?
Par vague. Je suis capable de ne pas m'acheter de vêtements pendant 3 mois, et puis tout d'un coup, d'avoir une folie...
Changement de saison, allez hop.
Oui, changement de saison, où là, tout d'un coup, je commence à regarder plein de trucs, j'ai envie de tout. mais je suis quand même assez raisonnable. Et puis, j'ai la chance de m'habiller aussi avec les collections ici chez Tara. Donc, j'ai pas, dans l'absolu, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Et donc, je m'habille beaucoup en Tara et beaucoup aussi en vintage. Mm. Je fais beaucoup de magasins vintage. Et donc, c'est vraiment plus le vêtement qui vous trouve. C'est comme une espèce de petite histoire d'amour. Tout d'un coup, on trouve quelque chose.
Quel est ton dernier achat ?
C'est le pull que je porte.
Tu peux le décrire ?
Alors, c'est un pull d'une marque américaine qui s'appelle The Elder Statesman. Et c'est, je crois, pour ne pas dire de bêtises, une marque donc, qui fabrique exclusivement aux États-Unis du cachemire. Ils teignent même leur fil. Enfin, voilà, il y a toute une histoire derrière le pull, qui est, enfin, derrière la marque, qui est très intéressante et qui a un côté un peu artisanal et un peu particulier. Et il se trouve qu'il était extrêmement bien soldé. Parce que je me serais jamais acheté au prix fort, mais il était extrêmement bien soldé au bon marché. Et la couleur est...
C'est ce que j'allais dire, la couleur est magnifique.
Elle est magnifique, c'est un espèce de... C'est entre le corail et le orange fluo. Et voilà, je suis tombée amoureuse de cette couleur.
Et ton prochain achat ?
Je rêve d'une grosse doudoune.
Ah, c'est vrai, encore ? Ouais. Ouais, ben on oui. S'était vu il y a quelques ouais. semaines, tu rêvais d'une doudoune ouais. orange. Pourquoi cette obsession de l'orange ?
Je sais pas. J'ai parfois des espèces de lubies de couleurs. L'année dernière, c'était le violet.
Ah, c'est en fonction des années, en fait.
Mais je me rends compte qu'en fait, il y a des choses qui se recoupent en fonction des moments. Mais là, c'est vrai que j'ai même pas fait attention, mais effectivement, je rêvais d'une doudoune orange qui n'existe plus, qui est sold out. Donc, je me suis mis en quête d'une autre doudoune.
Orange ?
Non. Cette fois-ci, je me suis dit que j'avais vraiment arrêté les couleurs un peu trop spéciales, surtout pour des grosses pièces comme ça. Donc je pense que je vais trouver une doudoune noire.
Basique.
Qui va pouvoir m'accompagner dans le temps.
Tu achètes plutôt en ligne ou en boutique ?
Beaucoup, beaucoup en ligne. Alors, je vais peu en magasin parce que j'ai peu le temps. Et le week-end, je préfère voilà, me consacrer à mes enfants, à mon mari... Qu'au shopping. Et j'adore l'idée de pouvoir choper sur son ordinateur, allongé sur son lit à 10h du soir. Je trouve qu'il y a un truc un peu presque subversif, je sais pas.
Tant toi, en tant que directrice artistique, t'as pas envie de toucher la matière avant de l'acheter ou de vérifier ?
Je trouve qu'aujourd'hui, on voit bien sur les sites, quand même, on se rend compte. Moi, je regarde beaucoup aussi les compositions, les détails de composition. Et après, il y a une telle facilité à renvoyer les vêtements quand ils ne vous conviennent pas que je trouve que c'est plus vraiment un... Voilà, qu'on peut recevoir quelque chose de très décevant, tant au niveau de la coupe que de la qualité. C'est très facile de le renvoyer, de se faire rembourser, donc c'est plus tellement un problème.
Alors, quels sont tes spots chouchous?
Alors, j'ai des toutes petites marques que j'adore regarder. J'ai une marque anglaise que j'ai trouvée il y a 2 ans, qui maintenant se développe bien, qui est une marque de robes qui s'appelle Rixo London, qui fait des blouses, des robes et beaucoup, beaucoup d'imprimés que je trouve super jolis, super forts et très, très spéciaux. Je chope beaucoup, en fait, je regarde beaucoup de petites marques sur Instagram. Et je vais voir leur site. Alors, j'achète pas systématiquement, en fait, mais j'aime bien aller...
Instagram est une source d'inspiration pour toi ?
Énorme, ouais. Je passe beaucoup trop de temps sur Instagram, je dirais.
Pourtant, on lui reproche une espèce d'uniformisation de la mode.
Oui, quand on suit, par exemple... Enfin, oui, parce qu'il y a, il y a des chemins très balisés sur Instagram. Il y a des... Voilà, il y a des grosses marques qui... Mais après, moi, j'aime bien aller faire des espèces de labyrinthes de recherche et trouver... la petite marque brésilienne très spéciale. J'ai trouvé des marques américaines de bijoux en faisant des espèces de tunnels de recherche, de choses comme ça. Donc je pense que si on a le temps et l'envie, on peut aussi trouver des petits créateurs.
Pour sortir des sentiers battus un peu.
Ah oui.
Toi qui as dirigé le bureau de style de Hanover Stories, que penses-tu de la fast fashion?
Alors... Je trouve, pour avoir travaillé chez Another Stories, donc le groupe H&M, que pour avoir vu les choses de l'intérieur, il y a parfois une certaine forme de caricature dans l'image qui peut être donnée par la presse. Parce que quand j'étais là-bas, alors Another Stories, c'était le groupe H&M, c'était pas H&M, c'était quand même, ça faisait partie du même groupe, donc j'estime que... J'ai quand même vécu les choses un peu de l'intérieur.
De l'intérieur, oui.
Il se trouve que j'étais extrêmement surprise par la prise de conscience qu'ils pouvaient avoir par rapport à certaines choses et que j'avais jamais vécu dans des marques françaises auparavant. On n'avait pas le droit de travailler avec certains fabricants de laine parce qu'ils traitaient les moutons
C'est bien de le dire.
Ils avaient une façon de tondre les moutons qui était pas éthique. Et en fait, il y avait tout un cahier des charges qui nous était donné, qui était très strict et que j'avais jamais, moi, rencontré dans les marques pour lesquelles j'avais travaillé auparavant. Donc, je trouve que, effectivement, il y a dû avoir des erreurs qui ont été faites, et c'est sûr. Mais en tout cas, moi, à l'époque où j'y étais, ils rectifient le tir et ils sont vraiment dans une volonté de transparence et d'aller dans le bon sens. Et donc je trouve que parfois le procès est un peu facile et un peu et manque de réalisme.
Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus? Tu sais que tu les gardes.
Alors,
et pour d'autres,
je fais souvent des tris, j'en fais 2 ou 3 fois par an. C'est-à-dire qu'il y a des pièces, je sais que je les ai achetées sur des coups de tête et que mais je les ai jamais mis. Donc, souvent, je les donne. Alors, je les donne soit à des gens autour de moi. Donc, ça peut être la dame qui travaille chez moi, qui s'occupe de mes enfants. Ça peut être des copines, si ça les intéresse, ou mes sœurs. Et après, je fais aussi pas mal de sacs pour des associations. Et après, il y a des vêtements que je garde, que j'archive. Voilà, encore une fois, avec mon histoire de musée personnel.
T'as un système d'archivage perso dans des cahiers
ouais,
ou...
J'ai des boîtes en plastique et j'archive des vêtements, des choses comme ça, du vintage, et que j'entrepose dans ma cave.
T'as des codes et tout
Ouais, et puis je les ressors. Parfois, je vais faire un tour à la cave, je remonte des boîtes, je ressors des trucs... Et c'est comme ça que j'ai des espèces de vêtements qui m'accompagnent, pas toute ma vie, mais par phase dans ma vie.
Et tu les ressors à quelle occasion?
Quand j'ai envie, en fait. c'est pas très calculé.
Alors, on le disait tout à l'heure, on te compare souvent à la Parisienne, parfaite. Que penses-tu du mythe de la Parisienne? Est-ce que c'est pas un peu trop facile et par rapport à l'ensemble, on a l'impression qu'il y a Paris et la province.
Ouais, alors je suis assez d'accord, effectivement, je trouve qu'il y a un côté un peu réducteur et il y a un côté un peu caricatural dans le côté parisien. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un style un peu français. Au même titre qu'il y a un style suédois ou italien ou américain. Moi, je trouve que voilà, le terme est peut-être pas très approprié, mais en tout cas, c'est vrai. Il y a un style... alors, peut-être qu'il faut parler d'un style français qui est très personnel, qui est peut-être... qui fait plus état de l'état d'esprit de la personne, de sa culture aussi. Il y a un côté... ce que les Suédois avec lesquels je travaillais disaient « perfect imperfection ». C'est cette volonté de vouloir jamais être trop nickel...
Trop bien coiffé, justement.
Voilà, trop bien coiffé. D'avoir des petits... un côté un peu accidentel dans sa façon de s'habiller. À l'inverse d'une américaine qui va être tirée à quatre épingles.
C'est ton opposé, l'américaine.
Ouais, je trouve. Et après, il y a le côté... les Nordiques, les Suédoises, ils sont beaucoup plus expérimentaux dans leur façon de s'habiller. Ils travaillent vraiment des volumes un peu spéciaux. Et puis, il y a aussi des choses toutes bêtes, mais le climat. Par exemple, en Suède, ils s'habillent avec des grosses doudounes, des grosses chaussures. Et il y a un côté un peu plus masculin dans la silhouette.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Pour moi, l'élégance, c'est faire corps, en fait, avec le vêtement. Il ne faut jamais oublier que c'est le corps qui rend le vêtement joli, et pas l'inverse. Je trouve que ça se voit beaucoup sur certaines personnes. Les personnes ont dit qu'elles enlèvent le vêtement. Enlever le vêtement, c'est vraiment, genre, tout d'un coup, lui donner une espèce d'allure et un corps magnifique. Et c'est pas forcément une question de corps parfait ou de morphologie parfaite. Il y a des gens qui savent se tenir, il y a des gens qui savent bouger la main, le bras, se tenir et qui vont du coup avoir une forme d'élégance très naturelle.
Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2019 ?
Pour 2019 j'ai déjà beaucoup de choses. La même chose avec un bébé en plus, je pense.
Et au niveau de tes créations, alors quelles sont les tendances printemps-été 2019 ?
Alors, printemps-été 2019, la collection, on a travaillé comme inspiration, les recherches étaient sur les Swans, qui étaient des femmes qui vivaient dans les années 50-60, qu'on appelait les cygnes de la 5e avenue. Qui étaient des copines de Truman Capote et des femmes, justement, qui étaient la quintessence de l'élégance américaine. Mais c'était aussi, par exemple, Marella Agnelli, en Italie, une femme qui s'appelle Slim Kiss. C'était souvent des filles qui étaient assez bien nées ou bien mariées et qui avaient cette espèce de quête du vêtement parfait, du bijou parfait. Et donc, qui sont des symboles de l'élégance. Donc, on a fait beaucoup de recherches là-dessus.
Et qu'est-ce qui a été le détonateur
pour... une exposition au Grand Palais du photographe, j'ai un trou de mémoire, la grande exposition du photographe qui a eu lieu au Grand Palais l'année dernière. J'ai un énorme trou de mémoire de femme enceinte, évidemment. Et la deuxième inspiration, c'était l'exposition de Gauguin, toujours au Grand Palais. Donc, en fait, on a mélangé ce côté extrêmement élégant des femmes des années 50 avec les tahitiennes de Gauguin. Donc, on a travaillé, par exemple, des jacquards tahitiens sur des matières très, très nobles, très, très riches. Et j'aime toujours, moi, mélanger deux choses qui sont assez différentes.
Alors, on va finir par le petit questionnaire de la fin. Si tu étais une couleur ?
Du bleu marine.
Une forme de pantalon ?
Une forme de pantalon. Un slim.
Si tu étais une chaussure ?
Une boots.
Tu es plutôt plat ou talon, d'ailleurs ?
Un peu des deux. Plutôt boots, je trouve que c'est quand même... j'aime bien quand même l'idée d'avoir des talons. Moi qui suis souvent en jean, je trouve que ça, du coup, ça transforme un peu l'allure.
Ça relève. Mm. Si tu étais une matière.
Du coton.
Si tu étais un bijou.
Des boucles d'oreilles.
Si tu étais un parfum.
Alors, je suis un parfum depuis 20 ans. L'eau d'Adrien d'Annick Goutal.
Si tu étais un pull.
Un joli col roulé.
En quelle matière?
En cachemire, évidemment.
Si tu étais un sous-vêtement.
Une culotte en coton, je pense.
Si tu étais une créatrice, c'est un peu délicat de te demander ça, ouais. Mais une autre créatrice ou un créateur.
Évidemment, je ne me compare pas à lui, mais pour moi, le maître absolu, c'est Saint-Laurent.
Merci infiniment, Colombe.
Merci, Valérie.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Audible, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.